Écho d'économie, Georges Kamoudjova.
L'équipe est au rendez-vous. Je suis en compagnie de Berry Franklin Luchaka pour ce tour de l'économie congolaise.
Oui, Georges, un tour qui passera par Kisangani où la SNEL vient d'acquérir un nouveau réfrigérant pour ses machines. Et d'ailleurs, Godlivo Mundo nous en dira un peu plus dans deux minutes.
Contrat bivac RDC, compréhension toujours difficile dans les douanes. Voilà qui amènera Daniel Tambizoni dans la seconde partie de cette émission. Et les immeubles qui poussent dans les grandes villes, peuvent-ils pousser partout dans le pays? Boabo KMB tenter de l'inciter auprès des investisseurs. Le patron de l'agence qui promeut les investissements sera l'invité de l'économie à suivre dans 10 minutes. Les nouvelles nationales d'abord, Moïse Katumbi, bilan économique négatif.
En tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans une lettre publiée aujourd'hui à Lubumbashi par les opposants du Katanga. Selon eux, les deux années sont catastrophiques, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'économie, où l'on n'a pas observé des avancées.
Au sud d'Ubangi, dans le nord équateur, les responsables des plantations de café, de cacao, d'EVA et des palmiers menacent de licencier massivement leurs travailleurs.
Georges, ce sont des menaces suite à la crise économique qui frappe leur société. C'était avec la baisse du prix de leurs produits sur le marché international. L'inspecteur du travail du district invite les patrons à ne pas profiter de cette crise pour renvoyer leurs travailleurs au mépris de la législation du travail en vigueur. Il a même lancé une campagne qu'il a déjà menée et aux plantations des huileries du Congo, à Gwaka, à Kakaoko et aux plantations de Djiba dans les territoires de Boudjala.
SOS des revendeurs des carburants à Boma et à Mwanda.
SOS lancé aux autorités du Bas-Congo. C'est au sujet d'une taxe qu'il paye à l'OFIDA depuis deux mois. C'est $50 par fût alors qu'hier, il payait la moitié. Selon Baza Kabi, président des revendeurs des produits pétroliers de Mwanda, cette taxe bloque leurs activités. Nombreux d'entre eux ont déjà abandonné leur travail et il faut noter, Georges, que le territoire de Mwanda qui ne dispose pas de station d'essence est ravitaillé en carburant par ces revendeurs.
L'AMIBA reprendra sa production si les prix du diamant triplent.
En tout cas, c'est ce que la patronne Christine Toussaint dit à l'agence Bloomberg. Le prix moyen de carat actuellement est de $5 et il faut donc attendre qu'il soit de $15 pour que la MIBA reprenne.
Et en attendant, les vols de diamants MIBA continuent.
Ah oui, au moins 6 creuseurs clandestins ont été arrêtés dans la nuit du mercredi à jeudi. Après fouilles, ils ont été trouvés en possession d'une centaine de pièces de diamants non encore évaluées. Ils sont actuellement à la disposition du service d'investigation et recherche de la MIBA où une enquête est ouverte. La semaine dernière, l'inspecteur du travail de la police a dénoncé les incursions des creuseurs clandestins au polygone depuis l'arrêt de la production.
La nouvelle économique au bout du fil.
La Société nationale d'électricité SNEL Kisangani vient de se doter d'un réfrigérant. Cette nouvelle acquisition évaluée à environ 11 000 euros et la contribution de la SNEL pour le début de l'exécution du projet appuie à la fourniture de l'électricité à Kisangani, un projet qui bénéficiera du financement du Royaume de Belgique. En ligne depuis Kisangani pour en parler, Godlive Omondo. Dites-nous d'abord, Godlive, quelle est l'importance de ce matériel dans le fonctionnement de la SNEL aujourd'hui?
Oui, Georges, s'il faut comparer avec un véhicule, le réfrigérant joue la fonction d'un radiateur. Cette cuve permet de maintenir la machine au frais et la SNEL, qui a fonctionné plus de 4 ans avec le réfrigérant de son groupe numéro 3, quasiment vétuste, était contraint d'arrêter la machine à chaque réchauffement. Et chaque mois, elle arrêtait ses groupes durant 3 à 4 jours pour dépannage. Cette nouvelle acquisition, Georges, de remplacement, vient à pic, a affirmé le directeur, car cette situation était également à l'origine de l'estage dans la ville.
Est-ce que cette dotation peut aider à la promotion de l'économie dans la ville? Peut-on espérer une diminution des délestages qui paralysent les activités commerciales?
Ah bien, la fin des délestages est durablement. Mais du moins, la fin du délestage intensif qui était occasionné par cette panne, et ceci avec des conséquences, il y avait l'arrêt des activités dans des riveries, des moulins à manioc, des chambres froides et toute autre activité ou toute autre entreprise qui utilise le courant électrique. Le réfrigérant va en principe diminuer les délestages, s'il faut le dire, et puis ces entreprises doivent espérer une meilleure productivité. Et cependant, les désagréments liés au déficit de puissance ainsi qu'à la vétusté du réseau va encore persister, sachez également que la remise en état de 3 groupes de la SNEL Kisangani nécessite un financement de 800 000 euros.
Merci beaucoup, Godlive Omondo. Je rappelle que vous interveniez depuis Kisangani et nous saluons à travers vous tous ceux qui nous écoutent à Boyoma sur 94.8 FM.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Luchaka.
Berry, les ressortissants de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire, du Libéria, du Tchad et de la RDC travaillant dans les mines de diamants en Angola expulsés.
En tout cas, il leur est reproché d'exercer les activités commerciales illégalement dans le pays d'Eduardo dos Santos. Le service de migration et étrangers à Lunda Norte, au nord-est de l'Angola, a rapatrié vers leur pays d'origine 822 étrangers en situation illégale dans cette province diamantifère de l'Angola.
Et petit regard sur le pétrole.
Le baril baisse et les craintes sur la demande reviennent au premier plan. À la clôture des marchés, il se négocie à 57 dollars et d'ailleurs, il a commencé la journée à 56.
Merci beaucoup Berry pour ces nouvelles économiques internationales.
Merci.
Écho d'économie, le dossier.
Merci de nous avoir rejoints sur Radio Okapi. Écho d'économie entre tout de suite dans sa seconde partie. Daniel Tambizoni, lui aussi, nous a rejoints pour parler bivac. Les importateurs œuvrant à Kasumbalesa au Katanga ont repris du travail aujourd'hui après 3 jours d'inactivité. Ils s'insurgeaient contre les pénalités qu'ils jugent exorbitantes, donc qu'on leur impose quand ils ne montrent pas de certificat bivac. Alors, faut-il croire aujourd'hui que le partenariat RDC-Bivac n'est pas encore bien adapté?
Il faut tout de suite dire, Georges, que le souci du gouvernement congolais de ramener les opérateurs économiques congolais à observer les dispositions universelles en matière d'importation, telles qu'énoncées par l'Organisation mondiale de commerce, tout en respectant la réglementation nationale de change, est bien compris des opérateurs économiques.
Ah bon?
C'est ce que nous ont déclaré beaucoup d'entre eux.
Mais s'ils ont bien compris, d'où vient alors le mécontentement aujourd'hui?
Alors, le mécontentement poussant jusqu'à l'arrêt de travail, comme on a observé à Kasumbalesa, c'est que Bivac, qui est partenaire du gouvernement congolais dans le contrôle des importations
à l'embarquement,
n'est pas présent partout dans le pays où les marchandises sont importées. Le poste frontalier de Kasumbalesa, par exemple, reçoit des marchandises qui proviennent de l'Asie où Bivac est absent.
De la Zambie.
De la Zambie également, de la Tanzanie, Bivac est absent. Le mécontentement, Georges, c'est aussi la pénalité que subissent les importateurs, comme nous disait Dédé Mopassa, qui est chargé de PME au sein de la FEC Lubumbashi.
Automatiquement, si vous n'avez pas un numéro d'attestation de vérification de Bivac, le montant est doublé. Tout ce qui est frappé, c'est tout ce qui arrive sans être contrôlé par Bivac. Au niveau de Dubaï ou de Chine, mais arrivés au pays, ils n'ont pas fait de contrôle au départ et ils sont frappés de cette pénalité. Et les autres sont ceux qui vont à Lusaka, à Ndola. Et quand vous arrivez à Ndola, il n'y a pas de Bivac en permanence.
Donc il faut dire que ce problème n'est pas propre à Kasumbalesa, au Katanga et à Butembo, c'est le même problème.
C'est vrai, Georges, on a connu de tels problèmes dans les villes que tu viens de citer, plus encore en Bujima il y a quelques mois. Et d'ailleurs là, le problème n'est pas encore clos. C'est ainsi que la FEC Kasaï Orientale a écrit au début de ce mois une lettre à la FEC nationale de pouvoir négocier avec le gouvernement pour voir dans quelle mesure les pénalités peuvent être supprimées sur des marchandises en provenance des milieux où Bivac est absent.
Alors, qu'est-ce dit l'OFIDA pour les pays où Bivac est absent?
Cette belle question, Georges, c'est vous qui l'avez posée à la DGDO Ruguiza de l'OFIDA. Je vais vous rappeler votre question et sa réponse d'il y a pratiquement un mois.
Là, il y a un cas précis, c'est-à-dire quelqu'un, un opérateur économique qui arrive avec sa marchandise, ça n'a pas été inspecté ailleurs. Comment vous faites en ces moments-là?
Mais écoutez, là, ce seront des cas par cas que nous allons examiner. La règle, c'est celle-là, mais s'il y a un problème à l'application de cette règle, la douane et l'OCC, n'est-ce pas, apprécieront la situation.
Merci beaucoup, Daniel Tambinzoni. Deo Ruguiza, le 14 avril, je me rappelle, mais qu'on n'a pas réussi à joindre aujourd'hui, je crois.
Oui, c'est ça, Georges. Nous avons tenté sans succès de le joindre.
Alors, merci beaucoup, Daniel. C'est un dossier à suivre.
Suggestions et réactions, n'hésitez pas. Un clic. Echo@radiookapi.net.
L'invité de l'économie ce soir est Boaboa Kayembe. Professeur, vous êtes directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements. Vous avez reçu aujourd'hui plusieurs investisseurs œuvrant dans le domaine de la construction ou de l'immobilier. Vous souhaitez qu'ils sortent de Kinshasa où il y a déjà un boom immobilier et qu'ils aillent vers les provinces. Je suis avec Nazar Koko dans ses studios. Nazar, vous avez assisté aussi à cette rencontre entre l'ANAPI et les investisseurs.
Effectivement, Georges, et j'aimerais poser la première question à Monsieur Boaboa. Vous avez demandé, Monsieur Boaboa, aux investisseurs d'avoir de la vision et de l'audace dans ce qu'ils font. C'est quoi concrètement?
Et avoir de la vision, c'est tout d'abord s'insérer dans le cadre des 5 chantiers du chef de l'État. Donc à partir de là, on peut se dire que pour ce pays ici, l'une des priorités, c'est d'investir dans les infrastructures et dans le logement. Donc c'est vouloir être très très dynamique, c'est dire qu'on peut gagner de l'argent en construisant des maisons un peu partout à travers le pays, parce que la demande des maisons est extrêmement forte. Tout le monde, partout où il est, cherche à avoir des maisons, soit à prendre en location, soit à acheter, mais c'est l'offre de maisons qui n'est pas là.
Alors vous leur demandez de l'audace, mais quand il y a des marchés de l'État, ils sont mis hors circuit, ça les décourage.
Oui, vous savez que l'État avait mis en place un programme de construction de logements dans chaque chef-lieu de province. Et je ne sais pas combien de logements ont été construits à ce titre-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les moyens de l'État dans cette conjoncture ici sont assez limités. L'autre volet des marchés de l'État, c'est des marchés qui sont initiés sur financement de partenaires, soit multilatéraux, soit bilatéraux, mais là aussi, il faut reconnaître que les moyens d'action sont limités. Donc moi, j'insiste beaucoup sur les marchés qui peuvent être financés par les privés. C'est-à-dire, on a des opérateurs privés qui prennent la décision de développer un projet immobilier quelque part à vendre à la population ou bien à mettre en location à la population. Parce qu'il faut quand même arrêter de trop penser à l'État qui peut faire des choses étant donné l'exiguïté de ces moyens pour le moment.
Bon, les immeubles qu'on voit pousser, Monsieur Boaboa, sont de haut standing et pas pour le petit peuple. Ne faudrait-il pas des investissements dans les logements sociaux?
Oui, vous savez, on a passé une période très très difficile au cours de laquelle les gens n'investissaient pas dans ce domaine-là. Parce que quelqu'un qui construisait une petite maison quelque part, il recevait beaucoup de services de l'État qui allaient le faire des tracasseries, où est-ce que tu as trouvé de l'argent, etc., etc. Bon, maintenant, les opérateurs privés ont commencé par construire des logements haut de gamme qui concernent un certain nombre de clientèles, mais nous voulons les pousser.
Et comment les y pousser?
Ce que nous avons comme stratégie, et c'est le marketing déjà, c'est une stratégie, mais les incitations fiscales sont une stratégie également, mais cette stratégie implique également que les infrastructures de base préalables existent pour pousser les gens à aller vers ce logement. Ces préalables impliquent la participation de l'hôtel de ville, la participation du ministère, la participation de la police. Parce que les logements sociaux intéressent des quartiers comme Ngiri-Ngiri, comme Ndjili et tout ça. Mais il faut qu'il y ait des voies d'accès à ces quartiers-là. Il faut qu'il y ait l'électricité, il faut qu'il y ait l'eau, et qui est la sécurité pour que les gens se sentent poussés à aller investir dans ce secteur. Et ça implique également des commandes qui peuvent venir de l'État. On doit chercher à l'extérieur des financements qui peuvent être destinés au logement social. À ce moment-là, les opérateurs économiques verront leur intérêt à investir dans ce domaine parce qu'ils peuvent avoir des marchés de la part de l'État.
On va peut-être terminer très rapidement avec cette question de Nazar Koko.
Bien entendu, alors, l'un des problèmes majeurs du secteur, c'est des conflits qu'il y a, des conflits des terres, tout ça, on le voit, plusieurs procès à Kinshasa. Les investisseurs vous ont soumis leurs préoccupations en rapport avec cette question. Comment pensez-vous la résoudre?
L'obtention de la terre, ça, c'est une question fondamentale. Je crois, face à ces questions-là, je crois que nous n'avons pas de solution comme telle en tant que l'ANAPI. Mais ce que nous avons promis, c'est de faire le plaidoyer dans la direction des autorités du ministère des Affaires foncières pour qu'ils puissent prendre des mesures pour assainir la situation dans ce secteur parce que le développement des affaires dans notre pays en dépend.
Merci beaucoup, Monsieur Bobo Kayembe. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. C'est avec vous que nous terminons cette émission réalisée par Daniel Tambinzoni. Supervision Nicole Ngaka, Berry Luchaka et Nazar Koko nous ont prêté aussi leurs mains. Bonne soirée à tous et à demain.